RCF.
Qui n'a pas un jour dans sa vie connu la morsure de la jalousie ? Cette brûlure survient souvent très tôt dans la vie d'un homme, mais comme la jalousie est un vilain défaut, on la cache, elle est même souvent interdite dès l'enfance. L'enfant garde alors en lui cette honteuse maladie en tentant de nier ce qu'il ressent vivement. Et si pour en guérir, il fallait au contraire en reconnaître les symptômes au plus vite ? C'est la thèse d'un petit livre passionnant qui nous entraîne au cœur de la Bible, des textes où les jaloux sont bien présents, mais également la médecine qui permettra d'en sortir. Ce que dit la Bible sur la jalousie est paru chez Nouvelle Cité. Il est signé Marie-Reine Mezzaroba, qui est théologienne et bibliste. Marie-Reine Mezzaroba, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi ce thème vous a-t-il intéressée ?
Je crois que c'est parce que j'ai envie de vivre heureuse et que la jalousie est une maladie qui me fait du mal. Donc c'est quelque chose qui s'oppose à la vie en moi. Et donc c'est intéressant d'aller voir un peu, la laisser se débusquer.
Parce que dans le livre, on sent que, bon, vous parlez des autres, mais que cette question vous touche personnellement.
Oui, parce que je suis humaine comme tout le monde. Donc, au bout du compte, je crois que c'est une question qui touche tout le monde et qu'on a effectivement, comme vous avez dit, beaucoup caché. Et donc, c'est important que je le voie, y compris pour moi.
Chacun de nous ressent précocement la jalousie. Personne n'y échappe.
Oui, je crois vraiment que chacun, dès la naissance, pratiquement, presque, dès qu'il peut se comparer avec quelqu'un d'autre, dès qu'il peut voir la vie dans un autre.
Oui, parce que vous dites que le mouvement de la jalousie, c'est désirer une vie qu'on croit présente chez l'autre et pas chez soi-même.
Oui, la jalousie, c'est le moment où on imagine qu'elle n'est présente que chez l'autre. On la voit, on se rend compte que l'autre s'amuse, joue, jouit, vit, est heureux, et on se dit « et moi ?» Pourquoi on se dit ça, je ne sais pas, mais c'est comme ça.
Donc, je suis jaloux de ce qu'est l'autre ou de ce qu'a l'autre? Parce que quand on regarde un enfant, par exemple, il voit jouer avec un beau camion que lui n'a pas, il veut avoir le jouet de l'autre.
Il voudrait être comme l'autre. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'enfant veut le camion de l'autre, mais une fois qu'il l'a, si l'autre ne l'a plus, ça ne l'intéresse pas non plus. Ce qui l'intéresse, c'est d'être comme lui. C'est-à-dire qu'on voit dans les jardins publics, hein, des gamins qui fauchent la pelle du voisin, mais puisque l'autre à la sortie n'a plus la pelle, ben cette pelle ne l'intéresse pas non plus. C'était pas la pelle qui l'intéressait.
Oui, donc ça n'est pas qu'une histoire d'avoir.
Non.
C'est l'objet quand l'autre le possède.
Oui, c'est pratiquement, je dirais, c'est presque être l'autre qu'on voudrait. Être comme lui, avoir sa vie, avoir sa joie. Et une fois que l'autre n'a plus cette joie, voire qu'il est en larmes parce qu'on lui a fauché sa pelle, bon.
Alors on sait que les parents reprochent souvent à leurs petits d'être jaloux. Vous dites justement qu'il découle de ça une sorte d'opération de dissimulation qui est grave parce que ça laissera des traces.
Ah oui, mais non seulement ils le reprochent, mais ils disent tellement, enfin, ils laissent entendre, parce que c'est pas toujours même formulé, ils laissent tellement entendre que c'est pas bien, que l'enfant lui-même, je crois qu'il n'y a même pas accès. C'est-à-dire, vous voyez ces enfants qui se précipitent sur le berceau du petit frère ou de la petite sœur pour l'embrasser, le dévorer de baisers, s'ils pouvaient l'étouffer. Mais ça, ils le laissent pas voir, ils le comblent de cadeaux, ils lui apportent des jouets, même une avalanche de jouets. Enfin, tout ça pour lutter, je crois, contre, en fait, l'envie que cet être-là éventuellement disparaisse parce qu'il occupe beaucoup l'attention des parents. Et il lui prend quelque chose.
C'est-à-dire qu'il surjoue l'affection pour cacher une jalousie.
Oui. Et beaucoup de parents se laissent prendre. C'est-à-dire, regardez comme il aime son petit frère. Ben, si vous avez un enfant qui aime son petit frère et qui le couvre de bisous et qui le couvre de cadeaux et qui dit jamais que le petit frère il est embêtant et qu'il couine tout le temps et qu'il empêche maman de s'occuper de moi, eh ben, méfiez-vous.
Il faudra donc sortir du déni.
Oui, il faut sortir du déni. C'est Denis Vasse qui disait qu'un enfant, finalement, auquel on parle de sa jalousie, est tout heureux de voir que quelqu'un peut en parler, peut le reconnaître, peut lui dire, bah oui, c'est pas drôle quand on entend les parents qui discutent avec les amis depuis son lit et qu'on est exclu de cette joie parce qu'on nous a mis au lit. On n'y est pas, on entend la joie des autres, on voudrait y être. Et qu'on mette le mot jalousie et on voit l'enfant s'illuminer parce que finalement, bah voilà, si l'adulte lui dit ça, c'est qu'il est au courant, c'est qu'il sait.
Marie-Hélène Mezzaroba, vous citiez Denis Vasse, psychanalyse. La psychanalyse vous intéresse et vous nourrit dans la réflexion que vous portez sur ce thème de la jalousie. Mais il y a aussi la Bible. Et vous dites que c'est parce que les rédacteurs de la Bible avaient l'expérience de la jalousie qu'ils en parlent dans
oui.
la Bible.
Oui. Je crois que les auteurs de la Bible sont des humains comme nous. Aussi habité par l'esprit de Dieu, mais l'esprit de vérité est finalement aussi dans tout humain. Donc, ils savent, ils ont cette connaissance que la jalousie existe dans leur cœur et qu'elle est un poison. Donc, ils essayent de nous montrer et ils le mettent dans le cœur des tout premiers hommes. C'est-à-dire dans les récits de la Genèse sont des récits qui sont tardifs, mais qui supposent toute l'expérience, justement, du peuple qui a connu sa fidélité et son infidélité et qui a connu tout son parcours et qui connaît aussi ses relations humaines quotidiennes. Et donc, dès Adam, dès Caïn, on nous parle de la jalousie dans la Bible, dans l'introduction du bouquin.
Vous dites que le récit de la Genèse, avec Adam et Ève dans le jardin, peut nous aider. À quoi ressemblent les symptômes de la jalousie ? Que sont la comparaison et la convoitise. Alors j'aimerais qu'on revienne avec vous sur ce récit mythique, une histoire qui nous parle encore à nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui se joue sur le plan de la jalousie ?
Mais ce qui se joue, c'est que Dieu donne un jardin avec des arbres et il dit qu'il s'en réserve un. Il dit, celui-là, tu n'y touches pas. Tu peux toucher tous les autres, mais pas celui-là.
Tu peux toucher tout le reste.
Tout le reste, mais pas celui-là. Donc, il signifie une altérité. Hein. Il signifie, tu n'es pas moi. Et à partir de ce jeu-là, et puis, bon, Dieu dit aussi, si tu manges de cet arbre-là, tu mourras. Arrive ce personnage, mythique, effectivement, qui est le serpent, et qui vient instiller. C'est comme ça que fonctionne la jalousie. C'est une espèce de petite voix qui susurre. Non, mais c'est pas vrai. Dieu sait que si tu manges de cet arbre-là, tu deviendras comme lui. Ce que susurre le serpent, c'est si tu manges de cet arbre, tu deviendras comme Dieu. Dieu est jaloux de toi. Il ne veut pas que tu sois comme lui. Il a la vie en entier. Mais il veut pas te la donner tout entière. Il se garde quelque chose.
Autrement dit, le serpent susurre à l'homme, si tu n'as pas tous les arbres, tu n'as rien.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Alors que c'est pas du tout ce qu'avait dit Dieu. Au contraire, il avait dit, tu peux tout consommer, sauf je mets une limite.
Voilà, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que Dieu avait mis une limite, et c'est le désir de tout. D'ailleurs, on retrouve tout le temps cette envie de rapter, je dirais, ce qui nous est donné de faire main basse pour ne rien perdre. C'est quelque chose qui nous habite.
Mais c'est intéressant parce que ça rejoint ce que nous disions sur le petit enfant qui voit l'autre avec un objet et qui se dit « si je ne l'ai pas, je n'ai rien ».
C'est ça. Il se détourne de son propre jeu, il se détourne de ce avec quoi il jouait lui-même pour lorgner ce que l'autre a, et il lui faut avoir la vie qui est dans l'autre.
Donc ça commence dès la Genèse de nos vies, mais aussi dès les débuts de l'histoire de l'humanité, cette histoire de jalousie.
Mais tout à fait, tout à fait. Et Denis Vasse disait, Dieu, on est jaloux finalement que de Dieu.
Qu'est-ce que ça veut dire ça ?
Je crois que ça voulait dire on est jaloux de celui qui est à l'origine de la vie. On aimerait bien pouvoir se la donner à nous-mêmes. On aimerait bien pouvoir se passer de lui. au bout du compte, hein, c'est-à-dire être les donateurs. On voit bien qu'il est la vie en abondance. Et nous, non.
Parce qu'on voudrait la maîtriser, cette vie ?
On voudrait la maîtriser, la posséder. On voudrait que ça soit nous. On voudrait ne pas dépendre. On voudrait ne pas la recevoir.
Pour justement vivre tranquillement avec ce que j'ai moi, ce qu'a l'autre, justement, un équilibre, il faut consentir au manque ?
Absolument. Absolument. Je crois qu'on ne peut vivre que avec le manque. Parce que quand on est auto-satisfait, on est enfermé. On est comme dans une tour.
Un petit mot peut-être sur les rapports entre psychanalyse et Bible, parce que vous dites dans le livre, je ne suis pas là pour faire la psychanalyse des textes. Hein. Mais alors justement, quel est votre lien entre psychanalyse et Bible ?
Ben, mon lien, c'est que je crois que la Bible est porteuse vraiment de connaissances anthropologiques très profondes qui nourrissent la psychanalyse. Et je pense que même si on n'utilisait pas le terme d'inconscient à l'époque des rédacteurs de la Bible, cette connaissance, ils l'avaient déjà. C'est la même connaissance qui apparaît dans un cabinet, mais finalement, l'inconscient a toujours mû l'homme. Simplement, on prononce ce mot-là, qui n'était pas prononcé comme ça, mais l'expérience de l'inconscient, c'est-à-dire l'expérience de choses qui agissent les personnes alors qu'elles ne le savent pas. Ça, c'était bien présent dans la Bible, c'était très présent chez les pères de l'Église, ils étaient loin d'être naïfs, comme nous on peut l'être en s'imaginant que c'est la conscience qui dirige tout.
Le refoulement, par exemple, est mis en scène. On aura l'occasion, justement, avec vous, d'en parler, puisque nous allons voir de plus près l'histoire de Caïn et Abel. Caïn qui a refoulé, justement, sa jalousie. Il y a eu un retour du refoulé dans la violence. Merci à vous, Marie-Reine Mezzaroba.